France Info.
Céron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien, vous êtes batteur, vous êtes français, comme votre nom ne l'indique pas. Vous avez fait fortune aux États-Unis, où l'on vous demandait de faire croire que vous étiez italien. Vous êtes le père de la disco en France, comme il y avait Giorgio Moroder en Italie et Nile Rodgers en Amérique. Votre premier album, Love in C Minor, s'était vendu à 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Il vous a rapporté un Grammy Awards, c'était en 76-77. Votre troisième album, Super Nature, je vais pas tout citer, a atteint les 10 millions d'exemplaires. Et pour lui, vous avez été nommé 5 fois aux Grammy Awards. Je vais parler de votre histoire. Vous étiez batteur un petit groupe, et puis vous décidez d'enregistrer un morceau d'un genre complètement nouveau, 16 minutes, la longueur d'une phase de 33 tours, sur un son de pied de grosse caisse, avec en fond sonore, des filles qui gémissent. D'où venait le son ?
Des filles qui gémissent ?
Ouais.
C'est quand le mix, quand j'ai eu mixé l'album, les choristes qui avaient chanté, je leur ai fait écouter, et j'ai offert du champagne, on s'est mis en fête, on était peut-être un petit peu chaud, et puis deux, trois choristes ont commencé à faire un, et j'ai trouvé ça très drôle. Je leur ai dit, on tourne toutes les 16 minutes, vous pouvez faire des orgasmes et des choses comme ça, simulées. Elles m'ont dit oui, on l'a fait, j'ai osé.
Et puis, il faut parler des pochettes. Sur la première, Love in C Minor, il y avait une fille nue, avec ses vêtements étalés par terre et vous en peignoir. Sur la seconde, Siren's Paradise, une fille nue sur un frigo, avec, au premier plan, ce qui a choqué encore plus que la nudité de la fille, un yaourt écrasé au sol. Que faisait ici ce yaourt ?
C'est quand on a shooté la photo, comment j'ai choisi mes pochettes ? Ben, je faisais venir des photographes qui montraient leur book. J'ai trouvé cette photo très bien. Je l'ai montré à la maison de disque. J'étais là, donc en maison de disque, chez Warner. Et on m'a dit, mais oui, mais faut que tu sois sur la pochette. Donc j'ai demandé au photographe de me mettre sur la pochette. Il a voulu refaire la photo dans sa cuisine. Et la position étant tellement difficile pour la fille qui était dessus, à un moment donné, la porte s'est ouverte, le yaourt est tombé. J'ai trouvé ça génial. Le truc, c'est que tout le monde l'a interprété, tout le monde a dit que c'était de la coque,
ouais.
C'était de la provoque.
Ouais.
Donc, avec un titre prétentieux dont j'ai beaucoup utilisé, dont j'ai beaucoup joué, c'est Run Paradise, une nana nue sur un frigidaire, avec de la coque au sol et des orgasmes dedans. Oui, j'étais pas autant que Gainsbourg, mais j'étais un gros provocateur. Ouais.
En même temps,
j'en ai joué. Alors.
Vous en faites pas mystère, vous étiez à fond dans la coque à un moment donné, vous l'avez dit vous-même.
Oh, à fond, je me suis laissé aller, je me suis laissé embringuer.
Déclaration à François Hortand, juin 2005, il y avait beaucoup de coque, on me proposait aussi beaucoup de plans cul.
Ben, oui, il y avait
parfois
beaucoup,
même, donc des trucs super glauques.
Oui, bien sûr.
Quoi, par exemple, de super glauque ?
Des conneries qu'on fait quand on est jeune, et puis voilà.
C'est pas super glauque, c'est joyeux.
Mais ça a duré un an et demi pour moi.
Est-ce que c'est la coke et la drogue qui vous ont donné la grosse tête ?
Non, il y a un moment donné, quand on est jeune, qu'on n'y croit pas autant que ça, quoi. C'est simplement la fougue.
Oh.
Et qu'on a du succès et sans le vouloir. Je pense qu'on a tous un peu la tronche qui enfle.
Attendez, même sans être jeune, votre dossier de presse de 2015, il est écrit en toutes lettres. La France avait un génie, elle l'a laissé partir en Californie.
Qui est-ce qui a écrit ça ?
Bah c'est vous, c'est votre dossier de presse il y a 2 ans.
Ah, c'est la maison de disques, c'est pas moi.
Ah bon, c'est pas vous alors. Vous avez dit, ça peut paraître prétentieux de ma part, mais on ne peut pas être modeste quand on fait ce métier.
Tout à fait, il faut un brin de mégalomanie, bien sûr. J'assume, bien sûr.
Vous avez composé...
Ouais, que les politiques, ils sont pas mégalos.
Ils ont que
les acteurs, ils sont pas mégalos.
Ah bah si
on est des gamins dans la musique, les artistes, les chanteurs. Nous sommes des gamins par rapport à eux.
Vous avez aussi composé le générique de l'émission de TF1 Star Academy. Il est resté à l'antenne pendant 5 ans. Alors, vous dites que vous n'étiez pas client de l'émission. C'est pas une émission qui vous plaisait.
Ils m'ont jamais invité.
Ah bon ?
Ils m'ont jamais invité.
C'est pas vrai.
Et au bout de la 5e année, je me suis un petit peu vexé. J'ai dit, j'arrête là. L'émission a duré 7 ans.
Et vous les avez bien taillés, hein.
Et on m'a dit, t'auras pas les couilles. Et ben, je leur ai montré que je l'avais.
Vous avez dit.
Et j'ai montré que c'était pas pour l'argent. Pour l'argent, parce que quand on fait un générique où il y a à peu près plus de 300 spots dans leurs deux mois et demi que dure l'émission, évidemment que ça fait des droits importants.
Ça rapporte
bien. Ça rapporte des sous. J'ai montré que c'était pas l'argent qui m'intéressait, que je la jouais et que je trouvais qu'ils auraient pu au moins m'inviter et le dire au grand public.
Et vous les avez taillés aussi, hein. En 2005, vous avez dit, tout le monde croque du pognon sur la Starac et le public, lui, gobe. Ils ont dû être contents à TF1 de lire ça dans France Soir.
Mais c'est la vérité, attendez.
Oui, mais il y a des gens qui disent pas la vérité.
Mais je m'en fous, je suis pas les gens, je suis moi.
C'est Ron, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.